Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des milices armées face à des manifestants anti-racisme. Image saisissante ces derniers jours aux États-Unis. Cette nuit encore, un rassemblement a eu lieu dans le Wisconsin. Quand le monde du sport se met à l'arrêt en soutien aux manifestants. Dossier complet dans ce journal.
Vous comprendrez aussi pourquoi le commissaire européen au commerce démissionne. En pleine tension commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, une histoire de gala de golf.
À l'heure des premiers bilans de la crise sanitaire et économique, nous apprenons que les cyberattaques se sont multipliées pendant le confinement. La faute, nous dit un professionnel, au télétravail, les ordinateurs portables ne sont souvent pas assez protégés.
Et puis nous reviendrons sur la précision du ministre de l'Éducation. Les programmes scolaires ne vont pas s'adapter à l'éventuel retard des élèves pris pendant le confinement. Nous avons demandé aux syndicats ce qu'ils en pensaient.
Quand la crise du Covid-19 a bon dos, voici d'ailleurs le billet politique de Frédéric Seyss. Son thème ce matin, ce sera après le journal. Se défendre à tout prix contre la différence, contre ce que l'on croit être une menace. Voici le quotidien des Américains, tristement à la une en ce moment. 3 mois très exactement après la mort de George Floyd, sous la pression d'un policier, Jacob Blake, 29 ans, afro-américain lui aussi, a été touché dimanche par 7 balles dans le dos. Il devrait rester paralysé. Depuis, les affrontements s'enchaînent et l'Amérique se divise. On a même vu dans les rues des miliciens armés prêts à se défendre contre les manifestants. Derniers jours, 2 personnes sont mortes. Un homme a été arrêté hier soir. Notre envoyé spécial Loïc Loury est dans le Wisconsin à Kenosha, là où tout a commencé dimanche.
Depuis quelques jours, Kenosha, 100 000 habitants, ressemble à une ville fantôme. Dans le centre, pas un chat et des façades barricadées. Matt, qui possède une boutique, ne veut entendre parler ni des manifestants ni des miliciens.
On a passé des heures à faire de notre centre-ville un endroit à vivre, travailler, s'amuser, pour que notre communauté soit bien dans cette superbe ville. Et une partie de ce travail a été défait en à peine quelques nuits.
Un peu plus loin, une grosse centaine de personnes se sont encore rassemblées devant la cour de justice du comté. C'est ici que des affrontements ont éclaté la veille. Des événements qui sont dans toutes les têtes, dit Thomas.
La nuit dernière, j'ai vu un peu de ce qui s'est passé, notamment avec ces putains de milices. Excusez-moi, je suis un peu inquiet à cause de ça et aussi du renforcement des troupes fédérales.
Mais pas de police ou de miliciens en vue hier soir. Roger, venu lui aussi braver ce couvre-feu, s'en félicite. Il explique qu'il y avait dans les violences de la veille une dimension politique.
On connaît la mentalité de ces gens. Notre président leur a permis de croire qu'ils pouvaient prendre l'initiative et agir de façon cruelle, sans risquer la moindre conséquence.
Le symptôme d'une Amérique divisée et des électeurs sur lesquels Donald Trump compte pour l'emporter le 3 novembre.
Donald Trump qui voit défiler ses soutiens en ce moment, effectivement, pendant la Convention nationale républicaine. Cette nuit ainsi, le vice-président Mike Pence estimait que sa réélection garantirait le maintien de l'ordre aux États-Unis. Donald Trump a envoyé des soldats de la garde nationale à Kenosha dans le Wisconsin, alors que l'indignation gagne tout le pays après ces violences policières. C'est notable dans le monde du sport depuis hier soir, avec le boycott d'une joueuse de tennis à Cincinnati. Le tournoi est suspendu pour les prochains jours en signe de soutien. Idem pour des matchs de baseball hier soir et pour toute la NBA. Le championnat national de basketball a en fait emboîté le pas au club de Milwaukee dans le Wisconsin. L'un de ses joueurs, Sterling Brown, s'explique.
Ces 4 derniers mois ont mis en évidence l'injustice raciale que les citoyens afro-américains de ce pays doivent affronter. Ils ont fait entendre leur voix. Mais ces derniers jours, dans notre état du Wisconsin, nous avons vu aussi les images terribles de Jacob Blake, sur lequel un officier de police a tiré 7 fois dans le dos. Nous avons été aussi témoins de manifestants pris pour cible par des hommes armés. Malgré nos suppliques, aucune action n'a été entreprise. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous concentrer sur le basketball.
Des propos traduits et grâce à notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. Quelques mots encore des États-Unis et de la Louisiane ainsi que du Texas du Sud. Les 2 États américains affrontent des vents violents qui pourraient provoquer une montée des eaux impressionnante. L'ouragan Laura a été renforcé en catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5. Il vient d'ailleurs à l'instant de toucher la Louisiane. C'est une première en Nouvelle-Zélande. Une peine de prison à perpétuité perpétuité. Le tueur des mosquées de Christchurch a été condamné cette nuit à la prison à vie, sans possibilité de libération. Une décision du tribunal saluée dans la foulée par la première ministre du pays qui lui souhaite une vie de silence total et absolu. Il y a un an et demi, l'homme, un Australien, avait assassiné de sang-froid 51 fidèles musulmans dans des mosquées en Nouvelle-Zélande pendant la prière du vendredi. Pas de procès pour le commissaire européen chargé du commerce, mais une indignation populaire générale. Phil Hogan a participé à un dîner de gala en Irlande la semaine dernière avec 80 personnes, et donc en dépit des restrictions sanitaires anti-coronavirus en ce moment. Hier soir, il a annoncé sa démission de son poste à la Commission européenne, Lakshmi Lotha.
Le Golfgate l'a rattrapé. Phil Hogan a pourtant présenté ses excuses à plusieurs reprises. On peut lire sur son compte Twitter « Je suis profondément désolé, cela n'aura pas suffi ». La faute du commissaire européen, avoir participé à un gala de golf le 19 août dernier en Irlande. Un dîner avec plus de 80 invités sans respect des mesures anti-Covid. Le ministre irlandais de l'Agriculture y participait, il a été le premier à démissionner. Phil Hogan a lui dû remplir 4 pages en détaillant ses faits et gestes lors de son séjour dans son pays, une demande de la présidente de la Commission européenne. Le commissaire y reconnaît qu'il n'aurait pas dû assister à ce dîner. Sous pression du gouvernement irlandais, Phil Hogan a finalement présenté sa démission, une chaise vide à Bruxelles, en pleine tension commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis.
Lakshmi Lotha depuis Bruxelles pour France Culture. L'Union européenne, dont les ministres des Affaires étrangères seront occupés aujourd'hui à évoquer le partage des gisements gaziers en Méditerranée orientale. La Grèce et la Turquie s'opposent frontalement sur ce dossier. 96 migrants secourus, mais on ne connaît pas encore le nombre de disparus. Une nouvelle embarcation s'est retournée hier en mer Égée au large de la Grèce. Et voilà qui illustre un peu plus notre série de la semaine consacrée aux migrants arrivés dans la Manche plus précisément pour vivre dans une jungle. Repoussés des centres-villes comme nous l'avons entendu ces derniers jours sur l'antenne, ils se sont dispersés dans les espaces boisés près du littoral du nord de la France sans échapper toujours aux expulsions. Par exemple à Grande-Synthe, ils sont 400 dans le bois de Puitouc. Tara Schlegel y a suivi Arnaud Gabilla, un bénévole de l'association Utopia 56 lors de sa maraude. Reportage.
Batani, small batani.
Ça veut dire quoi, batani?
Couverture. Baby ou no baby?
Two baby.
Bon, you feel okay?
La maman montre son bras enflé.
Ça, c'est des piqûres de moustiques.
You must do disinfection.
Arnaud explique qu'une équipe viendra bientôt la soigner. Un peu plus tard, il revient sur ses conditions de vie si dures.
Bah, c'est très compliqué, ils sont sujets aux intempéries. Pour certains, ils vivent même pas sous des tentes, ils vivent sous des bâches. Parce qu'à cause des expulsions multiples, les associations n'ont plus assez d'argent pour acheter des tentes. Donc on se retrouve à devoir donner des bâches à des personnes pour pouvoir avoir des tentes pour l'hiver, pour les personnes qui arriveront sur les terrains de Grande-Synthe et qui ont des gros risques d'hypothermie. Sachant qu'on a quand même chaque année des personnes qui finissent à l'hôpital à cause de ça.
Donc, c'est-à-dire que là, en ce moment, vous rationnez un peu les tentes, c'est ça?
Eh ben, on se retrouve obligé de rationner les tentes. Donc nous.
Là, on voit par contre, on voit des déchets là, pas mal.
Ouais, il n'y a rien qui est organisé par la commune pour ramasser les déchets.
Du coup, une association avec 2 bénévoles s'est montée.
Une association anglaise qui ramasse plus de 1500 kilos de déchets par jour. Et ils les portent sur leur dos. Donc ils portent par jour 1,5 tonne de déchets sur leur dos.
Pendant ces maraudes, Utopia 56 essaye aussi d'entrer en contact avec des enfants isolés, explique Laure Pichot.
Malheureusement, les mineurs isolés sont très entourés par les réseaux mafieux, qui sont des trafiquants de personnes. Donc particulièrement les mineurs isolés ont une parole qui est extrêmement surveillée. Donc quand on donne le numéro d'urgence à un mineur isolé, on lui dit « tu nous appelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si tu as un problème avec la police, parce qu'on leur explique qu'en tant que mineur isolé, ils ont le droit d'être en France, même s'ils n'ont pas de papier. »
Mais ça, vous arrivez, c'est un message que vous arrivez à faire passer? Il doit y avoir les grands qui sont là,
Des stratagèmes pas possibles. Par exemple, qu'on travaille avec des traducteurs par téléphone, des interprètes, et je passe le téléphone, donc j'insiste pour que le téléphone ne soit pas sur haut-parleur, pour que l'information qui est délivrée soit délivrée dans l'oreille de l'enfant. Alors parfois, je me suis vue dire des choses délirantes comme « si tu peux pas me dire « oui, je veux être mis à l'abri », tu vas me dire quelque chose qui a rien à voir et tu vas me dire « oui, j'aime beaucoup la pizza ». Mais c'est très compliqué pour qu'un mineur de 14 ans qui parle ni français ni anglais rassemble tout le courage du monde pour dire « oui, je voudrais bien être mis à l'abri ».
Rien qu'en août, l'association a accompagné 30 mineurs à Grande-Synthe et 144 à Calais, mais ils sont forcément beaucoup plus nombreux.
Un reportage en forme d'épisode 4 de notre série à retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Migrants dans la Manche, vivre dans la jungle. Tara Schlegel vous raconte en mots, en sons et en photos.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une guerre des images est lancée à Grenoble.
Oui, après des dealers armés d'armes à la main et leurs vidéos faisant scandale, c'est l'État qui s'est affiché hier soir dans le quartier Mistral à Grenoble. À la demande du ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre se sont rendues sur place en nombre, mais l'opération n'a débouché sur aucune saisie d'importance. L'État sécuritaire, l'État protecteur, c'est aussi ce qu'a tenté d'expliquer le Premier ministre Jean Castex sur un autre plan économique. Il était hier pour l'ouverture de l'université d'été du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Anne-Laure Jumet y a rencontré un patron qui n'a pourtant pas eu beaucoup de difficultés pendant la crise sanitaire et la crise économique. Son entreprise est en fait spécialisée dans la lutte contre les cyberattaques. Attaques qui se sont intensifiées pendant le confinement. David Prash de la société Opens nous explique pourquoi.
Le télétravail a eu comme conséquence des attaques supplémentaires parce que les télétravailleurs sont partis chez eux avec des ordinateurs mal protégés. Il y a eu beaucoup de cas pendant le confinement d'attaques en fait qui avaient réussi parce que les pirates étaient passés par un ordinateur personnel d'un salarié et ensuite avaient pu rentrer dans le système d'information de l'entreprise. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises en France qui ne faisaient pas de télétravail l'ont mis en place en urgence sans penser à la sécurité. Et en fait, les pirates ont placé leurs pions un peu partout, ce qu'on pense pendant le confinement. Et petit à petit, ils vont tirer les ficelles et continuer d'attaquer avec tout ce qu'ils ont pu mettre en place en toute discrétion ces derniers mois. En France et dans les pays du Sud, les entreprises n'ont pas le réflexe de se protéger. Alors qu'en Europe du Nord, elles sont un peu plus dans la prévention. Les TPE sont très dures en fait à embarquer dans un processus de sécurité parce qu'elles pensent que c'est trop cher, parce qu'elles n'y comprennent rien et surtout malheureusement en France parce qu'elles estiment que c'est pas vraiment dangereux, il n'y a pas un danger alors qu'elles peuvent faire faillite du jour au lendemain après une attaque sévère.
Dans le monde de la culture à présent, c'est bien la crise sanitaire qui met à genoux les entreprises et les intermittents. Hier, le Premier ministre promettait une enveloppe de 2 milliards d'euros pour le secteur sur les 100 milliards prévus au total. C'est aujourd'hui, rue de Valois, au ministère de la Culture, que les acteurs pourront peut-être avoir des détails sur ces mesures et sur le protocole sanitaire à appliquer ces prochaines semaines. Des détails devraient aussi être apportés pour les écoles. Ce matin, Jean Castex tiendra une conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, et de Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier a déjà précisé hier que les programmes scolaires ne seraient pas modifiés cette année. Qu'importe l'impact de la crise sanitaire sur les élèves, Hakim Kasmi.
Même si Jean-Michel Blanquer reconnaît qu'avec le confinement, certains élèves ont pu prendre du retard, pour le ministre de l'Éducation, pas question pour autant de modifier les programmes à la rentrée pour rattraper le temps perdu. Malgré le contexte sanitaire actuel, il confirme que les évaluations prévues le 14 septembre auront bien lieu, les évaluations qui sont désormais la règle, en CP, CE1 et 6e. Ce qui risque d'accroître les inégalités, selon Sophie Vénédité, secrétaire générale adjointe du SNES.
On a des élèves là qui ont besoin de revenir dans l'établissement en confiance, qui ont besoin de reprendre des habitudes de travail collectif. Et si on n'a pas le temps et les moyens de faire ce travail-là, des élèves vont se trouver en difficulté, encore plus en difficulté qu'aujourd'hui. Et ça va être aussi un travail extrêmement compliqué pour les professeurs, puisqu'il va falloir être tiraillé entre cette idée que oui, on a des élèves et on veut s'en occuper parce qu'on veut tout de suite les mettre dans de bonnes dispositions, et en même temps l'impossibilité de le faire parce que le ministre nous parle plutôt de tests, nous parle plutôt de programmes à finir à tout prix, et ça va aussi nous poser problème en tant que professionnels.
En contrepartie, le ministère prévoit des heures de soutien, notamment pour le dispositif Devoirs faits au collège. Rappelons que d'après le ministère, 5% des élèves ont décroché pendant et après le confinement, un chiffre qui atteint même les 34% en zone d'éducation prioritaire.
Et j'ajoute qu'à l'échelle mondiale maintenant, la pandémie de Covid-19 a empêché au moins un tiers des élèves de la planète de bénéficier d'un enseignement, faute de pouvoir le faire virtuellement. D'ailleurs, partons au Mexique à présent où la rentrée a eu lieu cette semaine et où la classe sur Internet est impossible à organiser car peu d'habitants sont connectés. Les cours sont donc donnés à la télévision, Alix Hardy.
Dans son salon transformé en salle de classe, Renata, 13 ans, vient de terminer un cours de maths télévisé. Ça va trop vite, dit-elle. Je n'ai pas compris comment résoudre l'exercice. Sa petite sœur Camila fait ses devoirs de lecture. Leur mère Rosario a cessé de travailler pour les encadrer. Un job à temps plein.
Là, je vais l'enregistrer et envoyer le son à sa prof pour qu'elle la note. Je ne peux pas laisser mes filles toutes seules, sinon il n'y a personne pour les aider. Mais en tant que parent, on n'est pas formé pour ça.
Rosario utilise son téléphone et le Wi-Fi pour envoyer les devoirs. Mais au Mexique, 4 foyers sur 10 n'ont pas Internet. Cela monte Norma en vendant ses tacos.
Ils nous demandent tout par Internet, mais nous, on ne sait même pas utiliser un ordinateur. Et Internet à la maison, on ne peut pas se le permettre.
Les cours télévisés vont creuser les inégalités du pays, avertit Soulem Estrada, professeur de collège à Mexico.
Seuls 30% sont équipés. Nous, les professeurs, avons du mal à comprendre l'empressement du gouvernement à poursuivre le programme scolaire quand ils savent que 70% des élèves resteront sur le carreau.
10% des élèves ont déjà abandonné l'école depuis le début de la pandémie. Un chiffre qui risque d'augmenter si les écoles ne rouvrent pas leurs portes bientôt.
Alix Hardy à Mexico pour France Culture. Quelques averses s'installent aujourd'hui sur la Bretagne et sur la Normandie, donnant aussi un temps maussade des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France. Ailleurs, le soleil va briller avec des températures homogènes, 15 à 16 degrés au nord de la Loire, 19 à 24 au sud de la Loire.